Bonjour Gaëla, merci pour nous proposer cette communication. Donc la défiance vis-à-vis du système, entre parenthèses bancaire, système, le système entre guillemets, on en a un peu parlé ce matin avec Arnaud, comme mode d'expression, donc 20 minutes à peu près, hein, et puis 10 minutes pour avoir des questions derrière.
Alors déjà merci de m'accueillir parce que c'est la première fois moi aussi que je communique dans Pind et je suis un petit peu de loin vos activités puisque je côtoie en fait des punks en ayant travaillé sur les gens qui vivent en habitat mobile. J'avais vraiment envie de... Enfin voilà, là, cet appel à com m'a parlé, mais moi je pensais que le colloque aurait lieu dans très longtemps, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, donc je m'excuse par ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis bancaire entre parenthèses, parce que c'est plus quelque chose de très frais en fait, qui est un peu vraiment en gestation et pas hyper élaboré. Et je pense qu'il faudra aussi le travailler plutôt avec Arnaud, qui est aussi plutôt spécialiste et économiste. Et moi, je suis anthropologue. Mais néanmoins, on peut quand même parler de la défiance vis-à-vis du système comme mode d'expression. Comme je vous l'ai dit, je travaille plutôt moi sur donc les gens qui vivent en habitat mobile et notamment les gens du voyage. Donc je pars un petit peu de là. Et c'est en essayant en fait de désethniciser en fait l'approche des populations de Tziganes que j'ai, par un long cheminement, rencontré tout simplement des gens qui revendiquent le fait de vivre en habitat mobile. Donc ça va élargir le spectre des différents types d'habitats, ça ne va pas être uniquement du coup la caravane, ça peut être également bien sûr le camion. Et pour en fait, j'ai soutenu une thèse qui porte plus sur les espaces de vie voyageurs, et dans le cadre de cette thèse, j'ai réalisé un web documentaire qui porte justement sur l'habitat mobile, ou dans lequel j'ai rassemblé de manière un peu fictive ces deux communautés, en fait, que sont donc, je vais les appeler néo-travelers, même si la terminologie n'est pas satisfaisante. Voyageurs, c'est pas satisfaisant, mais c'est le terme qui est utilisé par les populations, les gens du voyage, pour s'auto-désigner aussi. Mais quand je parlerai, on va dire, de voyageurs, je parlerai de populations dites tziganes, donc gitans, manouches, voilà, mais aussi tous les forains. Bon, voilà, les deux catégories sont très vastes. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui va rassembler, à partir du prisme des valeurs partagées, en fait. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, de rassembler ou de mettre en comparaison, en fait, ces deux populations qui vivent dans un mode d'habitat qui est hors norme, qui est l'habitat mobile, qui en fait ne comporte aucune forme de reconnaissance en termes de logement, qui échappe donc à tous les dispositifs facilitant l'accès au logement, que ce soit au niveau des prestations sociales, mais également tout ce qui est au niveau des emprunts bancaires. Les gens du voyage, par exemple, n'ont pas d'emprunt pour accéder, enfin pour pouvoir s'acheter leur caravane. Ce sont des crédits à la consommation qui parfois, ça a été un petit peu régulé, mais qui peuvent avoir des taux très très importants qui pendant une période ont avoisiné les taux à 20%. Donc il y a aussi un marché autour de ça, de fait d'être donc les gens du voyage sont plutôt exclus, on va dire, du système bancaire, de manière on pourrait dire, c'est plutôt ça la logique, que les punks, les néo-travelers vont plutôt avoir tendance, eux, à vouloir s'extraire de ce système dans lequel ils sont pris, puisque là pour le coup il n'y a pas d'héritage culturel en ce qui les concerne, mais l'habitat mobile va participer pour eux de l'expression d'une contre-culture. L'habitat mobile renvoie bien évidemment à la mobilité, et cette mobilité, en fait, va s'inscrire comme une forme de contre-pouvoir dans une société capitaliste qui érige la notion de propriété comme une valeur absolue. Donc dans ce cas-là, la circulation, la mobilité vont être des moyens d'échapper, d'une certaine manière, à un système qui cherche à fixer et à signer donc les populations. Donc on a c'est très ancien, hein. J'ai mis volontairement une image qui est intitulée « Le renvoi à la frontière suisse des bohémiens », où on voit la figure, dans l'iconographie, on voit systématiquement, dans cette période-là, donc 19e, début du 20e aussi, la figure du policier avec les roulottes. Donc il y a une construction aussi de la criminalité, en fait, de ce mode de vie, déjà, qui est très, très patente, enfin, en tout cas dans les images, mais y compris dans les dispositifs de contrôle. À côté, vous avez donc le fameux carnet anthropométrique qui a permis de contrôler les nomades. Mais j'ai mis volontairement cette notion de renvoi à la frontière, puisqu'en fait, cette notion de renvoi aux frontières m'a été aussi évoquée par des néo-travelers punk, notamment. C'est-à-dire, quand ils organisaient des teufs, des free parties, etc., le moyen, en fait, pour s'en débarrasser sur un territoire donné, c'était de les renvoyer aux frontières du département. Donc je trouvais que c'était assez parlant.
Donc, en fait, ce voyage, lorsqu'il est réalisé dans un idéal punk, va incarner la liberté de circulation, bien évidemment, mais aussi la liberté des corps. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose d'important qui, je ne parlerai pas de la question de la musique, mais qui s'exprime aussi dans la scène musicale et dans la scène de danse, qui s'exprime, cette liberté des corps est visiblement, enfin, en tout cas, je pense, très importante. Qui a pu être esquissé d'une autre manière pour les bohémiens et les nomades. Mais ça renvoie en fait aussi au 19e, notamment, mais un peu avant aussi, à une approche assez pathologique en fait de l'errance et donc de la mobilité. On parlait des automates ambulatoires, qui étaient en fait des gens qui circulaient, on appelle ça des SDF en fait de l'époque. Qui était perçu en fait à partir de l'antithèse de l'homme-machine de la période industrielle où les corps en fait étaient au service en fait de la production capitaliste, et donc ces automates ambulatoires étaient perçus comme des individus qui ne répondaient qu'à l'ordre de leurs pulsions, donc incontrôlables. Et ça demeure en fait, c'est des choses qu'on a encore en héritage, et c'est de ça aussi que se revendique en fait le mouvement punk d'une certaine façon, ce côté incontrôlable, ce côté libertaire. Peut-être, je ne suis pas du tout une spécialiste du mouvement punk, mais peut-être que les punks cachiens sont ceux qui collent le plus en fait à cet idéal-là, en tout cas, de liberté absolue, auquel le voyage est associé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en discutant avec eux, c'est vrai qu'il y a une espèce d'effet miroir, en fait, avec ils vont les appeler souvent les gitans, les gens du voyage. Donc, à la fois, on va s'y référer, c'est-à-dire que oui, on n'est pas les seuls à vivre comme ça, les gitans vivent comme ça, etc. Il y a des logiques aussi de distinction qui sont assez marquées, c'est-à-dire que les punks, enfin, les néo-travelers, ne sont pas dupes du fait que les voyageurs ont été mis sous contrôle, et assignés à cette mobilité à travers des dispositifs très répressifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont assez conscients de comment fonctionnent en fait les aires d'accueil aujourd'hui, qui fonctionnent en fait, on va dire, à partir d'une logique de contrôle des flux, hein, des flux de caravanes, de contrôle et de remise en circulation perpétuelle en fait, de ces populations qui ne doivent pas s'implanter durablement sur le territoire. Et en fait, bon, voilà, je précise que je vais dévier par rapport à la question du système bancaire, je le reprécise, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de la démonstration, mais je vais essayer de tendre vers ça. Donc on voit des formes d'opposition et de distinction entre, on va dire, Zigan et néo-traveler punk, quoi, avec par exemple des gens que j'ai rencontrés donc, dans un espace dont je vais vous parler qui s'appelle La Mine, trois gars que j'aurais pu vous montrer, mais on n'a pas le temps en fait, mais qui sont, qui incarnent la figure du punk à chien, on va dire. Qui jugent en fait les gitans, qui vont dire voilà, les gitans on les parque, moi si je vais en camion c'est pour vivre en pleine nature, c'est pas pour être au bord d'une route où mon chien il peut se faire écraser, etc. Ce genre de propos. Et du côté voyageur, j'ai aussi eu des propos de distinction, de comparaison en fait, et de jugement assez fort sur la manière dont vivent en fait les punks à chiens qu'ils côtoient, en fait, il y a des modes de rencontre, il y a quand même des formes de... parfois des endroits où ils vivent côte à côte, hein, où ils n'ont pas le choix de cohabiter, etc. Et le jugement, enfin, ça va être plutôt, on se lève le matin, on va travailler, tout est propre chez nous, les chiens sont tenus en laisse, vous voyez, donc il y a une espèce de chose, un petit peu de jugement par rapport à ces notions, notamment d'hygiène, aussi par rapport à la drogue, etc. Là, je ne cite pas dans le détail tous les propos qui peuvent être tenus, mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, un espèce d'effet miroir, il y a une menace, en fait. C'est comme si ces catégories-là peuvent être menaçantes l'une pour l'autre, au regard des valeurs qui vont structurer leur mode de vie. Déjà, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que les punks, peut-être, ont du mal à incarner complètement le mode de vie sur le voyage. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on en parlait hier avec un gars avec qui j'ai discuté, qui est punk, quoi, qui me disait, c'est vrai que nous, on tend vers le voyage, mais parfois c'est difficile, quoi. Effectivement, voyager, moi, en ayant travaillé sur les gens du voyage, ça nécessite beaucoup d'anticipation, d'organisation, c'est quelque chose d'assez structuré. Et les punks ont du mal avec cette notion-là, en tout cas, de structurer quelque chose. Donc, c'est vrai que l'idéal du voyage n'est pas toujours complètement incarné, déployé, performé, où ça va être de manière, ça va être considéré comme étant par les gitans, en tout cas, comme étant assez anarchique, quoi. Dans les valeurs, en tout cas ce que je dis moi dans ma thèse, c'est qu'il y a deux modalités chez ces deux catégories de manière en fait de se réhabiliter. Pour moi, en fait, les néo-travelers, quand je dis néo-travelers, c'est aussi culture techno, bien sûr, mais culture techno côté punk. C'est-à-dire, vraiment, c'est cette filiation punk qui est conservée là. Et en fait, on va chercher à se réhabiliter par la relation au milieu environnant, au milieu naturel, etc. C'est-à-dire, on tend aussi vers une forme de contact direct avec l'environnement dans une logique aussi d'autarcie. pouvoir se passer. Donc dans l'absolu, c'est avoir son propre potager, voilà, vivre dans des collectifs qui sont indépendants du reste de la société. Pour les gens du voyage, c'est un petit peu l'inverse, c'est même complètement l'inverse. Ils se réhabilitent plutôt par la relation aux autres, c'est-à-dire qu'ils sont complètement conscients en fait d'être dépendants en fait des sédentaires, ne serait-ce que pour tout ce qui est approvisionnement à l'eau, l'électricité, ce genre de choses. Ils ont besoin de pouvoir se brancher. C'est là où c'est à partir de ces problèmes de branchement que s'opèrent les conflits d'ailleurs, hein, le plus souvent. Et donc il y a un rapport de dépendance à la société qui est complètement assumé. Donc en fait, ils vont être entre guillemets ultra clean. Hein. On a certains campements de caravanes de gens du voyage qui sont vraiment très. Je parle de la blancheur. Parfois des campements, tellement c'est vraiment très clean, etc. Pourquoi ? Pour pouvoir revenir. Mais ça, on va le retrouver, ce côté pouvoir revenir, enfin, on va le voir. Donc, dans certains milieux néo-traveleurs qui vivent, en fait, sur le voyage, et c'est là où il y a des formes de rencontres entre les deux catégories, on va aussi avoir des formes de modalités de négociation et donc de mise en place de certaines règles pour justement pouvoir revenir, notamment revenir sur des espaces de travail. Donc là, je vous présente la mine. Là, c'est un espace en fait autogéré qui se situe dans les Cévennes, qui a été créé en fait au début des années 2000 suite à une rave party qui s'est organisée donc sur ce lieu, qui a eu un énorme succès. C'est-à-dire que la route pour aller jusqu'à ce terrain-là, qui était donc une ancienne mine, hein, qui s'est avérée d'ailleurs être polluée, etc. Mais ça a été beaucoup plus récent. Mais donc a attiré tellement de camions que ça a généré en fait une rencontre entre des gens qui étaient plutôt issus des mouvements hippies, qui étaient plutôt dans les logiques cabanes, etc., et donc ces gens qui vivaient en camion. Et donc de là est née la volonté en fait de une réelle rencontre en fait de deux contre-cultures qui ne se côtoyaient pas, enfin jusque là en tout cas à cet endroit-là. D'une volonté en fait de créer un lieu, donc les fameux issus du mouvement hippie, on va dire, avaient volonté de créer des espaces de production agricole, collectif, etc. Et donc est né en fait cet espace autogéré qui a conservé donc des ateliers de production. Typiquement, là on a un atelier jus de fruits, il y a aussi un atelier de production de bière. Et puis ça s'est structuré à partir du fait qu'on voulait accueillir en fait ces populations pour lesquelles il n'y avait rien. La société n'avait rien prévu pour ces gens-là qui vivent dans des gros camions et clairement qui n'ont pas leur place non plus sur les aires d'accueil des gens du voyage. Hein. Clairement, de toute façon, ce n'est pas le bon gabarit, ils occuperaient trop de place, etc. Donc c'est mis en place un collectif qui fonctionne toujours à l'heure actuelle, à partir de cette période-là, où finalement, ça s'est aussi transformé, donc un groupement foncier agricole, il y a une association aussi, je crois bien, je ne sais plus trop si c'est une association ou un simple collectif, mais en tout cas, le fonctionnement, il est régulé en interne par le fait que chaque personne qui vient habiter sur l'espace doit donner 4 heures par semaine. C'est aussi, alors paradoxalement, parce qu'ils sont en fait sous contrainte, enfin sous... réprimés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être là, donc il y a des procédures judiciaires qui durent depuis une quinzaine d'années, voilà, donc ils peuvent être expulsables à tout moment, mais ils résistent par le fait qu'ils soient un collectif. Du coup, en même temps, finalement, ça s'est aussi avéré, on va dire, pertinent ou opportun de faire de cet espace, au fur et à mesure, un lieu de réinsertion pour les tiges, les travaux d'intérêt général, donc... Donc voilà, il y a aussi une forme d'articulation avec une partie du système qui doit gérer les indésirables, etc. En fait, je me suis dit que j'allais vous présenter plusieurs espaces pour essayer d'esquisser comment se gèrent plutôt les formes de dons et de contre-dons dans ces communautés. Il y a des logiques d'hospitalité, aussi bien du côté des gitans que du côté des punks néo-travelers. Et c'est ça qui m'a un peu intéressée, que je vais essayer d'esquisser à travers plusieurs personnages, donc notamment Crête, qui est depuis le début en fait sur ce lieu, qui vit dans le bus qui est là en fait, qu'on aperçoit là, qui y vit toujours, et qui est vraiment dans cet idéal en fait d'autarcie, d'autoproduction et de vie en collectif, quoi, de sortir du système, etc. Donc on va l'entendre là. Donc là, on part sur... c'est mon webdoc, s'appelle Désert, vivre en habitat mobile. Et c'est dans ce document que j'ai fictivement rassemblé ces deux communautés.
Moi, je suis arrivé en 2001, ouais. Et il y avait déjà Sofiane. Sofiane, il avait commencé à créer le site. Il appelait ça comment la mine... La vitamine, parce que nous, quand on est arrivé, on était à fond de sport mécanique et puis on faisait nos buggy et tout. paf, paf, et puis on avait fait un circuit, là, de... Même on avait tout éclairé en... avec les guirlandes qu'ils ont dans les sapins de Noël dans les communes. Là.
Ouais.
Ils ont des grandes guirlandes de 20 mètres. Là. Et nous, on les avait mis toutes bout à bout. Hein. On avait fait 400 mètres comme ça. C'est on a eu deux ans. On a été interdit de séjour dans tout commerce jusqu'à la boulangerie et au supermarché à Anduze.
Vous n'avez pas le droit de mettre les pieds.
Puisque les personnes comme nous, ils vivent de récupération, ils sont beaucoup mal vus. Pour eux, ils paraissaient comme des voleurs. Des délits de sa gueule,
si
en fait.
C'est que j'ai de l'argent à dépenser. Quoi.
Mal accepté par les riverains. Après, on a été accepté d'une part par les chasseurs. Nous ont aidés. Ok, c'est des zozos. Mais c'est des personnes qui ont un bon statut.
Ouais, ils sont en place dans la région. Les dans la poche,
et de là, nous, en passant bien avec les chasseurs, on a commencé à se faire apprécier par les voisins.
Les gens du village.
Et surtout petit, par le village.
Et maintenant, ça va.
Et hein. De là, depuis quelques années, on est très bien apprécié. Ouais. Nous, on a montré qu'on était capable de faire quelque chose. Pas de rester dans nos camions... à juste vivre pour nous. Et donc, Christian leur a donné l'opportunité de pouvoir chasser sur ce terrain. D'accord. Tout en ayant en échange un bout de bidoche. Et en plus, il y a le site des dolmens qui est là-haut, le site touristique qui est auprès de chez nous. Donc, on a beaucoup de touristes qui sont de passage, forcément, puisque c'est très mal indiqué par la commune. Mais ils ne savent pas où exactement, quelque part, on fait des fois le site touristique. Bon, c'est d'autant mieux pour nous aussi, puisque ça donne une bonne image. Puisqu'on en a besoin aussi. Pour nous, c'est d'autant mieux, puisque je vois, on a un peintre, une couturière... moi-même, je suis sculpteur sur pierre. Il y a des musiciens. Bob qui est tailleur de pierre. Et il y a...
Tout.
Bon, on a tout. On a la brasserie, on a un cuistot. On a du jus de fruits. On va tout faire pour devenir autonome de la civilisation. Et c'est de ça qu'on voudrait aussi montrer que c'est possible.
Oui, il neige.
Ouais. Oh merde, putain, gros flocon là. Ouais. Oh la vache.
Ça a peine encore un peu mouillé.
Oh la vache.
Voilà, c'est pour vous donner un aperçu de l'ambiance de la mine, et en fait, ce qu'on va... Ce qui m'a interpellé aussi à un moment donné, c'est comment les individus en fait se gouvernent eux-mêmes aussi dans ces collectifs. Là, on voit qu'il y a une multiplicité de compétences en fait qui sont vraiment déployées, valorisées dans ce collectif où chacun a sa place en fait. Chacun trouve sa place dans ce collectif. Bon après, bien sûr, il y a toujours une dimension d'incertitude. Le devenir de cet espace est toujours complètement incertain. Ils sont toujours sous le coup de mesures d'expulsion, etc. Donc, mais néanmoins, ce collectif et ça et ces liens en fait, ces liens entre les personnes, ces relations en fait. De formes de collaboration, de coopération, etc., de coproduction, qui vont être déterminantes pour faire tenir en fait le lieu, l'espace. Et donc, on va estimer la façon dont les individus se gouvernent à partir finalement de ces registres de radicalité qui sont construits à partir de cette notion d'autarcie, en particulier le fait de ne pas vouloir toucher aux prestations sociales accordées par l'État. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Pas tout le temps, mais ça m'a toujours interpellée, ça m'a toujours attiré mon attention, parce que justement, c'est vraiment là-dessus, par exemple, que pour les gitans et voyageurs, c'est pas du tout le même positionnement. Il n'y a pas du tout ce positionnement-là. Donc là, il y a vraiment une volonté, finalement, de vouloir ne pas appartenir à ce collectif sous contrôle de l'État. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental, et j'ai même entendu, finalement, un punk cascadeur que j'avais rencontré alors que j'étais à l'époque médiatrice départementale auprès des gens du voyage, qui me disaient que finalement, à la mine, donc en parlant d'une personne en particulier qui fait partie des gens qui ont créé le lieu, pas nécessairement de Crète, mais de quelqu'un d'autre, qu'il était jugé, en fait, par ce gars, parce que c'était pas des vrais punks, car ils étaient, finalement, certains étaient au RSA, et que ça, du coup, c'était pour lui, c'était, il n'y avait pas de... Voilà, ça balayait complètement cette possibilité de se revendiquer d'une authenticité punk. Donc on voit que cette question d'authenticité, elle est très présente, donc on la retrouve, bien sûr, chez les populations de Tziganes, elle est hyper importante, bien sûr, mais finalement, on va la retrouver aussi chez les punks, et déployer d'une autre manière. Chez les Tziganes, en fait, le rapport de dépendance à l'État, il est assumé et il fait partie des processus de reconnaissance. C'est à travers ce rapport de dépendance qu'on revendique, qu'on demande à être reconnu comme citoyen à part entière et même comme humain appartenant à cette communauté humaine de la société. Pour les punks, c'est au contraire comment on fait pour s'en sortir, donc dans les deux sens, s'en sortir de ce système qui nous contrôle et s'en sortir aussi. Donc là, il va y avoir des logiques aussi, qui vont pouvoir basculer aussi dans des formes de profit, puisqu'on va dissocier en fait ces fameuses dépendances à l'État du système capitaliste. Le système capitaliste, disait Arnaud, ils vivent dedans malgré tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas possibilité complètement d'y échapper, c'est le propre du capitalisme. Donc on voit en fait que finalement, c'est saisonnier. Alors là, on change d'endroit. C'est un endroit que j'ai documenté dans mon webdoc que vous pourrez aller voir également. Donc c'est les photos du webdocumentaire sont d'Alexandra Frankiewicz. Là, je me suis intéressée à cet endroit parce que je ne pense pas que ça ait persisté. Encore une fois, tous ces espaces sont éphémères, ça dure plus ou moins. Mais il y a eu pendant plusieurs années, en tout cas, un espace qui est celui-ci, là, que vous voyez, là, donc à Saint-Martin-de-Belleville, qui était mis à disposition par la municipalité pour accueillir les saisonniers en camion. Et donc, c'était co-géré par la police municipale et un saisonnier bénévole qui est là, qui vit en camion, qui vit depuis sa jeunesse, enfin, qui n'a jamais cessé de vivre en camion, qui, en fait, a joué le rôle de gestionnaire, qui n'est vraiment pas un rôle facile, pas du tout un rôle sympa. Ça a généré, en fait... là, il y a toute une logique qui se déploie autour de comment on accueille ces gens-là qui ne sont pas reconnus par leur mode d'habitat et en même temps dont on a besoin sur un endroit comme une station de ski, un lieu où on accueille des touristes. L'industrie du tourisme a besoin de ces gens-là. Les industries en général, en fait, dans un système capitaliste, ont aussi besoin des gens qui assument complètement cette mobilité, dans le sens aussi d'une flexibilité, etc. Et du coup, la question du logement n'est même plus un problème puisqu'elle est prise en charge par les acteurs eux-mêmes qui arrivent autonomes. Donc, du coup, c'est assez pratique pour tout le monde. Pour les employeurs, qui n'ont pas associé du logement, parce que dans les stations de ski, la question du logement, c'est une tension importante, et pour les saisonniers qui, du coup, arrivent en étant disponibles tout de suite et qui vont même en plus pouvoir toucher une petite prime liée au fait que leur employeur n'a pas à payer leur logement. Donc il y a une plus-value, en fait, de part et d'autre. Et du coup, en plus de ça, donc, Ludo là, a décidé, lui, de jouer ce rôle pour réguler, en fait. Donc il s'est retrouvé, en fait, dans une situation un peu délicate, en fait, hein, puisque du coup, là, ça allait un peu à l'encontre des valeurs d'accueil, de solidarité, d'accueillir tout le monde, que tout le monde a sa place, etc. Donc il témoigne, je me suis vu refuser. Donc il a été volontaire, hein, je précise, pour exercer ce rôle. Et en fait, ça s'est un peu mal terminé. En tout cas, là, je rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, il y a eu des logiques un peu de règlement par le biais de l'argent notamment. Mais en tout cas, ce qu'il dit, voilà, je me suis vu refuser l'entrée à des amis à moi, parce que je savais ce qu'ils faisaient, je savais là où ils en étaient, et on aurait dû en venir à des règlements de compte plus masculins pour se faire entendre. À des amis, je me retrouvais à leur dire, les gars, non, il n'y a pas de place pour vous. J'avais ce rôle de connard, quoi. Les gens venaient me demander à moi si on faisait rentrer ou pas, si on peut faire ci, si on peut faire ça. On me laissait beaucoup faire, parce que j'ai cette facilité de communication. D'où moi qui organise des soirées, qui aime m'amuser, je vais voir les gens pour éteindre la musique. Je précise que Ludo a participé largement, a été un acteur important dans les années où il y avait les amendements Mariani, etc., sur les fêtes techno. Donc il était vraiment celui, il jouait cette facilité de communication. Elle était déjà à l'œuvre dans le mouvement techno lui-même pour aider. Il avait ce rôle-là, c'est-à-dire il n'était pas musicien, mais il était dans la négociation des espaces, justement. Donc là, on voit qu'il y a on va basculer en fait du côté de comment en fait des acteurs s'en retrouvent à donner d'eux-mêmes, en fait, donner beaucoup, parce qu'ils n'étaient pas rémunérés pour cette activité-là, qui le mettait, en fait, quand même un porte-à-faux au sein de sa propre communauté, quoi. Hein, donc, c'est des communautés qui se créent aussi par la valeur qu'on accorde aux individus, à la manière dont ils se comportent par rapport à aux valeurs qu'on a érigées comme étant importantes dans ce mouvement. Donc là, du coup, il était dans une situation très délicate. Là, je bascule du côté de Montpellier sur un terrain que je fais actuellement, mais où je retrouve ces logiques de débrouille, de faire sans le système. Là, on est avec des gitans sédentaires qui vivent à Montpellier, dans des appartements, dans des cités, logements sociaux, et qui ont déployé depuis les années 70, donc c'était des gens qui vendaient sur les marchés, qui vendaient de l'ail et du citron, qui étaient en plein centre de la ville de Montpellier, puis qui se sont fait un peu dégager au fur et à mesure, et qui ont réussi à négocier, à une période dans les années 70 à peu près, le fait de pouvoir avoir des paillotes de bord de route. Donc ils sont au bord des ronds-points, dans la ville de Montpellier, il y a une vingtaine de points de vente comme ça, qui sont tolérés. Souvent sur des terrains qui sont des délaissés de route qui appartiennent au département. Et en fait, ils n'ont pas, la plupart du temps, ils n'ont pas l'eau, pas l'électricité. Ils doivent vraiment se débrouiller. Pourtant, et donc, c'est des acteurs intermédiaires des filières agroalimentaires. Et en fait, chez les gitans, chez les voyageurs, on a des figures des figures qu'on a oublié de tellement décrire, je trouve, dans les sciences humaines, en tout cas, qui est la figure du commis. Les commis, en fait, c'était des SDF qui étaient accueillis par les communautés gitanes, gens du voyage, pris sous leur aile, et qui, on a surtout entendu parler du commis, parce que c'est aussi une réalité, comme étant celui, l'homme de main, l'homme à tout faire, qu'on exploite un petit peu aussi au sein de la communauté, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de famille et qui ont trouvé refuge, en fait, dans ces communautés-là, etc. Et donc, souvent, ben voilà, on rentre dans des logiques de coproduction également, hein, de coopération, voilà, où le commis, bah, il doit trouver sa place aussi dans cette petite économie voilà, qui doit survivre dans un système où là, pour le coup, ils sont rejetés. Voilà comment aussi les gitans... et donc là, donc, j'ai retrouvé... Donc là, on est sur quelque chose de très contemporain où cette figure du commis, elle revient. Elle est là, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des familles gitanes qui accueillent, en fait, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de SDF. Et c'est un peu... Ils se méfient de moi parce que, du coup, là, je fais beaucoup d'enquêtes auprès d'eux et c'est vraiment le sujet sur lequel ils veulent pas trop que j'aille. Mais en même temps, ces gens sont là, ils travaillent. Et là, par exemple, donc, derrière, quand vous montez derrière la paillote, là, eh ben, y a une caravane avec un gars... qui s'appelle Kako, qui est un SDF, qui est tout le temps là, qui est, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi des jeunes maghrébins un peu sortis du système, qui à mon avis surfent aussi avec les mouvements punk, hein, de toute façon, et qui vont se retrouver à être hébergés là, contre le fait de contribuer à cette petite économie, de faire tenir la paillote. Les paillotes, en fait, bah, il faut quelqu'un pour les surveiller, on est sur des bords de route, donc il faut une présence humaine permanente, quoi. Donc il y a une voilà, c'est une petite économie qui se régule comme ça, par des présences humaines, qu'on négocie aussi par des logiques d'hospitalité. Donc, les gitans vont mettre en avant la question d'hospitalité, on va dire les sédentaires vont mettre en avant la question de l'exploitation. Ces deux logiques-là sont un peu complètement un peu intriquées, quoi. Et c'est voilà. Et donc, il y a d'autres. Donc, voilà. Là, je voulais. Et donc, juste pour finir sur les gitans, je sais pas ce que j'ai mis. Ah, non, pas. Donc, en fait, sur mes gitans, pas plus tard qu'hier, en fait, j'ai fait un entretien qui a été hyper intéressant où j'étais avec un gars qui s'appelle Bino. Sur sa paillote, et où il me raconte, à la fin de l'entretien, ça n'a même pas été enregistré, mais à la fin, il me raconte, bah voilà, en fait, moi, nous, on a un grand cœur, donc la question du grand cœur qui est vraiment hyper importante, c'est lui comme ça. Moi, on me reconnaît, moi, Bino, en fait, je suis connue comme quelqu'un qui a un grand cœur. J'ai accueilli, si vous saviez, sur mon terrain, donc le terrain a été racheté par la mairie pour construire un grand bâtiment du département, mais sur mon terrain où j'avais ma caravane, j'ai accueilli un tel, donc il a accueilli des Bosniaques, des Roumains, des Maghrébins. Donc chacun a son histoire, mais c'est vraiment des relations fortes, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qu'on a intégrés dans la famille. Et en réalité, quand j'arrive chez eux dans leur appartement qu'ils louent dans une cité HLM, je suis accueillie par le commis que je rencontre tout le temps quand je vais sur leur paillote. En fait, je m'en doutais un peu, mais il habite réellement avec eux. C'est un fils de harki qui a perdu sa famille, qui a été complètement délaissé par sa famille, il a perdu ses parents, et eux, ils l'ont pris sous leur aile, mais réellement. C'est-à-dire qu'en fait... J'ai eu la puce à l'oreille quand j'ai vu en fait ce gars. Il le surnomme Boulette. On l'appelait Boulette. Donc Boulette qui arrive et qui arrive à la paillote en rendant la carte vitale à la femme de Bino, à Dolores, parce qu'il avait utilisé sa carte vitale pour aller chez le médecin, parce qu'il est malade. Mais en fait, il habite avec eux. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une 45 ans, quelque chose même plus que ça, peut-être 50 ans maintenant, et qui vit depuis des années avec eux. Et Bino me raconte que, en fait, cette question d'hospitalité est allée plus loin. Donc, il a accueilli plusieurs personnes, et notamment un Roumain, qu'il avait accueilli dans sa caravane, avec qui ce Roumain s'appelait Florian. Il a travaillé avec son fils, ils ont travaillé ensemble. Et ce Roumain est décédé à l'âge de 36 ou 40 ans, quelque chose comme ça, assez jeune. Ils l'ont enterré dans leur caveau familial. C'est-à-dire que cette question d'hospitalité va jusqu'à la mort. C'est-à-dire que là, lui, il était hors de question qu'il aille à la fosse commune. Il fait partie de notre famille. Et c'est là où il se réhabilite complètement, comme des gens ultra généreux, très humains. Je pense qu'il y a quelque chose... Et ça, moi, je trouve que là, par rapport à la mine, en tout cas, il y a quelque chose qui fait écho. Cette hospitalité inconditionnelle. Tu as ta place parmi nous, tu vas trouver ta place, etc. Et ensuite, je finis sur deux figures. Alors, donc la figure de Ludo, en fait, que je recroisais plus tard, qui en fait avait évolué différemment. Donc quand je l'ai recroisé, il revenait, il avait travaillé pendant plusieurs mois dans une grosse société qui vend du gaz, donc à l'étranger. Et en fait, il était, pour moi, en fait, du coup, Ludo, il est vraiment, lui, il a tout son discours sur ce passé de la banque. Donc je vais aller sur Ludo. Ça fait 2 ans que j'ai plus de compte bancaire en France. Donc quand je le recroise, c'était en 2015 à peu près. J'ai plus de compte bancaire en France. Et en fait, il se réhabilite lui, en disant, voilà, moi, j'ai pas un pet au casque, je suis pas un mongolien, je me suis pas retrouvé à la rue parce que je suis tombé dans la drogue ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. J'ai tous mes chicots, j'ai tout. Vivre en camion, c'est un choix que j'ai fait parce que je voulais une certaine liberté. Donc vivre en camion aussi, c'est justement pas payer de loyer. Enfin, il y a plein d'économies qui sont faites, mais parce qu'il y a du collectif derrière. Il y a des structures sur lesquelles on peut rebondir si on entretient la relation avec tous ces réseaux-là. Et je finis avec Enoch Cortés, que vous pourrez regarder d'ailleurs sur un documentaire sensationnaliste qui a été diffusé sur M6 dans Capital, qui lui revendique donc les gitans. Il explique que les gitans sont exclus de la, je vous disais au départ, sont exclus de la banque, etc. Et les crédits à la banque sont très compliqués à obtenir pour des gens du voyage. Et donc lui, il a mis en place un système où, en fait, il devient une espèce d'agent immobilier alternatif, enfin pas agent immobilier, mais un propriétaire, en fait, qui arrive à acheter des maisons sans argent. Il pratique ce qu'il appelle donc le crédit vendeur pour contourner la banque, le crédit vendeur ou vente à terme, met en relation directement le vendeur avec l'acheteur, qui lui paie une rente, avec un acte notarié à l'appui, jusqu'à la fin du paiement. Donc, en fait, lui, il achète, il retape avec la communauté qui peut faire les travaux dans les... Donc, et aujourd'hui, juste pour finir, il est propriétaire de 11 maisons. Et donc, il est devenu un spécialiste du crédit vendeur. Voilà. Bon, pour vous dire, voilà, j'avais envie d'aller aussi sur ces notions-là de jusqu'où on va aussi dans l'exploitation, dans le profit, dans comment on sort du système et comment on joue avec le système. Voilà.
Et merci. Aller au-delà de cette opposition trop facile entre autonomie, voilà. Oui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Gaïla. Je pense que là, ça nous a effectivement tous intéressés. On a tous énormément de questions, y compris moi. Donc, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je préférais peut-être... on va commencer par Arnaud, tiens.
C'est juste pour, te demander de développer un point, parce qu'il me semble que tu as un peu oublié d'expliquer que la mine, c'est un lieu de concert aussi, très important. Oui, hein, parce qu'en fait, et que c'est aussi lié... C'est pas simplement par le mode de vie que c'est lié... à la culture punk, mais c'est aussi un lieu de concert très important, de rêves et de toutes sortes de concerts d'ailleurs.
Oui, oui, c'est dans tout ce que j'appelle espace de production, ça inclut la production musicale, les productions culturelles en tout genre, donc qu'il évoque. Ils organisent des grosses fêtes encore, ça continue, c'est connu en fait, c'est identifié comme un lieu de fête et de différents types de musique, enfin d'Alain, ça se rapproche plus de la techno, il va y avoir du punk aussi de temps en temps, mais bon, j'ai pas assez fréquenté leur moment festif, quoi, pour. Voilà, moi j'y suis allé plutôt pour découvrir comment fonctionne ce lieu.
C'est juste à côté, mais ça se rattache un peu. Je sais qu'il y a en ce moment, dans le style Big Brother, quelque chose qui se forme où on cherche à éliminer le cash. Et ça m'intéresserait que, peut-être pas maintenant, mais plus tard, que vous nous donniez une certaine réponse. Parce que voyageant moi-même beaucoup, allant dans plusieurs continents... la notion de cash sans être sans cash, ça va être... sans parler du Big Brother, hein, en plus. Mais...
Oui, non, mais tout à fait. Là, par exemple, clairement, lui, il dit que je veux rien donner à personne, je veux rien prendre. Où est-ce que c'est le truc où il parle voilà. Donc en fait, bon, de toute façon, il dit voilà, on peut toujours négocier aussi d'être payé en liquide. Ça va jusque là. Alors je sais pas. Moi, il y a une part de discours aussi, hein. Mais bon, voilà, moi, il dit voilà, on peut très bien obtenir l'argent sur le compte bancaire d'un ami et récolter. Donc lui, il se balade. En fait, il fonctionne en liquide. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'ai des doutes sur. Enfin voilà, c'est que du discours là pour l'instant. Mais en tout cas. Bah oui. Ah ben là, oui, ça va. Ben, je sais pas, après, ça, c'est plus Arnaud qui est spécialiste de ces questions-là, hein, sur je sais pas, les autres systèmes alternatifs, quoi, Bitcoin et compagnie.
Moi, j'ai une petite question, parce que je rebondis sur le « j'ai pas de crédit, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant », donc ça, c'est un mec qui parle,
ouais,
et on a vu que des mecs.
Eh ben ouais.
Voilà, donc voilà.
Désolé.
bah, d'où ouais. Ma question.
Ah non, pas du tout, non, il y a des femmes à la mine. Il y a des femmes, mais c'est vrai que c'est. Je pense que c'est très genré, en fait, de ce que j'ai vu. Et par exemple, alors j'ai pas les photos, mais vous verrez sur le webdoc si vous y allez, vous verrez, il y a un bus notamment qui est tenu par une femme qui est habité par une femme. Et les filles, en fait, elles sont. Je pense qu'elles sont un peu. Je sais pas comment. Il y a des femmes qui sont dans les espaces ateliers aussi de production de jus de fruits. Il y a quelques femmes. Si, il y a des femmes, en fait, si. Sylvie, enfin il y a plusieurs filles,
mais comme
Sandrine. Pardon, ouais. c'est mixte.
Et mais c'est un effet de ta communication, qu'on ne les voit pas en fait.
Bah vous les voyez pas parce que j'ai choisi des personnages en fait, des personnages. Après,
Oui, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de personnage femme.
Ben, il y a quand même des rapports de domination, je pense, quand même, malgré tout. Mais bon, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, hein, donc je ne peux pas, je veux pas non plus faire des généralités là-dessus, ça serait un peu... Non, mais c'est très masculin. Enfin, bon, voilà, objectivement, je veux dire, on arrive, c'est quand même un peu... Moi, j'y suis allée cet été encore, ben, je n'ai pas vu de femme. Autant avec. Enfin, bon, voilà, mais en tout cas, j'ai noué des relations avec des hommes, en tout cas, plutôt là-bas.
C'est une problématique qui nous intéresse beaucoup parce qu'on a le même problème dans le punk, en fait. Hein,
mais ouais. Voilà. Mais par exemple, tu vois, sur Alem, parce que là, on n'a pas parlé de l'association Alem, qui défend tous les modes de vie en habitat mobile, etc., dans leur grande diversité. Et en fait, c'est aussi pour ça, c'est que les personnes de la mine qui sont investies à Alem, ce sont des mecs, la plupart. Il y a déjà eu des conflits. Ben oui. Oui, non, mais pas. Bien sûr. Non, mais c'est sûr, Oui, non, enfin bref. Ça, c'est un sujet que moi, j'ai pas vraiment traité dans mes travaux, mais... Ouais.
Ouais, alors du coup, moi, c'est une remarque-question, mais en tout cas, je trouvais ça super intéressant, parce que du coup, moi, je travaille sur les squats, et sur ce truc d'accueil inconditionnel. Enfin, moi, c'est un peu une hypothèse que j'ai, mais qu'en fait, finalement, il y a de moins en moins cet accueil inconditionnel qui est possible dans les squats, à part certains types de squats particuliers, c'est-à-dire des squats très militants, notamment des squats aux frontières, par exemple, qui, en disant « on appelle à ce que tout le monde nous rejoigne pour nous aider », en fait, permettent finalement un accueil plus inconditionnel que dans d'autres types de squats. Et finalement, j'ai l'impression que, donc, à part dans ces squats à la frontière très militants ou dans les ZAD, ou dans les espaces un peu là comme tu décris, finalement, c'est les lieux qui gardent cet accueil inconditionnel qui fait que, en fait, les gens les plus marginaux, on va plus les retrouver là, que dans les squats, par exemple. Et du coup, moi, ma question serait plutôt sur le lien avec les ZAD. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens entre, justement, ces communautés travelers, etc., et les ZAD qui sont aussi, finalement, des lieux d'accueil inconditionnel. Tu peux venir avec ton camion, on ne te demande pas d'être productif, on ne te demande pas d'être dans la lutte, tu peux juste venir et faire ta vie sur place et être dans cette idée un peu d'autonomie, d'autarcie, etc., quoi.
Ouais, après, dans les ZAD, alors, il y a deux choses. C'est, je dirais, d'abord, les ZAD existeraient-elles sans les habitats légers mobiles? Je pense que l'habitat mobile fait partie intrinsèque du système ZAD. Occuper un espace, être en capacité de l'occuper rapidement et sans craindre de la destruction de ton habitat. En fait, finalement, tu peux rebondir ailleurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et après, c'est tout ce qui est circulation des idées. Les ZAD, c'est des espaces, en fait, de discussion. Donc on amène, même si on ne va pas participer et contribuer directement, de manière indirecte, c'est les idées politiques qui circulent dans ces espaces-là. Donc c'est... Et voilà, et c'est l'esprit de débat, c'est l'esprit punk comment tu défends tes idées, tes valeurs, etc., et comment on construit la suite de l'alternative dans ces espaces-là. Mais je pense que voilà, c'est important, en fait, même si c'est pas dans directement, enfin si, c'est dans le faire aussi, c'est les deux, hein. C'est dans le faire et dans l'idée, c'est mettre en œuvre une utopie, quoi.
Je crois que là où on peut faire le lien, effectivement, assez évident avec la communauté punk, effectivement, c'est sur la pratique de la tournée. Et qui pose aussi la question des consommateurs de squats, consommateurs de ces lieux-là. Comment on les fait entrer, comment on les fait sortir? Est-ce qu'on reste un lieu militant? Est-ce qu'on reste un lieu culturel? Comment on marie tout ça? Un lieu de vie aussi, effectivement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Gaïla. Merci pour toutes ces conversations riches. Merci encore.